Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre, tous les mardis soirs. On est de retour pour une semaine de plus, pas une semaine de trop. L'équipe est au complet, Hugo est... enfin presque au complet on va dire. Hugo est à la technique et également en tant que chroniqueur. Comment vas-tu Hugo ?
Ça va très bien et toi Aurélien ?
Bah écoute, je me porte à merveille hein, voilà, pour cette grosse semaine de MMA et de sport de combat. Donc voilà, très hâte de faire cette émission.
International et français.
Tout à fait. Lounis est également présent. Comment vas-tu Lounis ?
Mais écoute, ça va super bien. Je suis très content d'être également présent cette semaine pour faire l'émission et puis pour parler un peu de cette semaine de dingue qui s'annonce pour nous.
Tout à fait. Donc on va revenir un petit peu dans le sommaire, mais très très grosse semaine pour les sports de combat, même pour le sport en général, hein, même pour ceux qui suivent un petit peu à côté d'autres choses, niveau football, voilà, reprise de la Formule 1, plein de choses. Le sommaire.
Mais ça, on s'en fout.
Tout à fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la bagarre. Pour ce qui est de la bagarre cette semaine, eh ben, on va revenir un petit peu en long, en large et en travers sur les événements qui vont avoir lieu jeudi déjà, premier événement, le PFL Paris. On va revenir un petit peu voilà, sur cet événement qui aura lieu à Bercy jeudi soir. On reviendra un petit peu notamment plus en détail sur le main event. Ensuite, on parlera un petit peu de boxe anglaise, voilà, une fois n'est pas coutume, avec le combat de Francis Ngannou contre Anthony Joshua, voilà, combat très très attendu également. Et enfin, on parlera un petit peu du gros événement, peut-être le plus attendu dans le monde pour le MMA, c'est l'UFC 299, avec notamment notre cher français Benoît Saint-Denis, qui va affronter une légende de l'UFC. Voilà un petit peu pour le sommaire, et ben sans plus attendre, on va lancer le jingle des actus et on débriefera tout ça ensemble. C'est parti.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Le premier gros événement dont nous allons parler ce soir, c'est le PFL Paris, donc qui aura lieu dans la soirée de jeudi soir, donc jeudi 7 mars. Début de l'événement, on va dire, dans les alentours de 17h, carte principale vers 20h et main event vers 22h. Ce qu'on peut dire sur cet événement, c'est que c'est très attendu en France. Il y a plusieurs combattants intéressants. Je pense notamment au Belge Patrick Abirora, qui est fraîchement champion du monde amateur et qui fait son deuxième combat en professionnel dans l'organisation. Il y a également Abdul Abdouraguimov, combattant nantais. Hein, voilà, donc Cocorico. je ne sais pas pourquoi je dis ça.
Oh, mais il l'a voilà. Dit.
Cocorico, tout à fait.
Mais
tout
il est nantais, tout à fait.
Tout bon animateur de radio se doit de dire ça un jour. Tout simplement. Ouais, Abdul Abdouraguimov qui combattra en co-main event. Et évidemment, le combat dont on va parler maintenant, Baysangour Shamsoudinov contre Cédric Doumbé.
Qui ?
Baysangour
Shamsoudinov. Non, mais c'est la blague.
Je voulais faire la blague.
C'est, pas, okay, c'est un peu comme si on en entend parler régulièrement depuis quelques temps.
C'est ça, c'est un petit peu le combat qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Qu'est-ce qu'on attend de ce combat, les gars, tout simplement ? Lounis, vas-y, commence.
Alors, honnêtement, c'est un combat, on y viendra un petit peu plus tard, mais qui est très difficile à pronostiquer. Honnêtement, moi, c'est pas un combat que, à l'origine, je voulais voir parce que ces deux combattants, qui sont encore invaincus et qui ont pour moi beaucoup de choses à montrer en MMA. Cédric Doumbé, certes, il a une énorme carrière en kickboxing et c'est un des strikers les plus renommés sur cette terre. Mais d'un autre côté, en MMA, il s'est jamais frotté, je veux dire, à des combattants extrêmement talentueux. Alors, Jordan Zebo, son précédent adversaire, était très compétent, mais il n'était pas, on va dire, psychologiquement, il était clairement atténué au moment où il l'a affronté par du trash-talking et tout ça. Donc, j'aurais aimé voir quand même Cédric Doumbé affronter un combattant beaucoup plus solide et qui a une palette de compétences qui pourraient lui nuire. Maintenant, Baysangour Shamsoudinov, donc Baki, qui est quand même un sacré espoir, voire le plus gros espoir du MMA français, lui aussi est sur une série de victoires et il est invaincu, il n'a jamais été battu une seule fois. Et j'ai pas envie qu'il perde lui non plus, parce qu'en fait, ce serait je trouve ça stupide en fait de perdre sa série d'invincibilité bêtement, contre Cédric Doumbé, en fait, tout ça pour une guerre d'ego et bon, clairement un combat de coq qui avait déjà commencé sur les réseaux sociaux. Maintenant, ceci étant dit, je reste très curieux de voir le combat parce que Shamsoudinov a quand même une énormément de compétences et puis de maîtrise, que ce soit au sol, même en striking, il a une très bonne condition physique, il est très athlétique. Et bah, à côté de ça, bon, Cédric Doumbé, il fait le show, il est effectivement monstrueux en matière de striking, il a un punch qui est, je veux dire, titanesque pour la catégorie de poids à laquelle il appartient. Donc, c'est un combat que j'attends de voir, parce que honnêtement, je sais vraiment pas comment positionner face à lui.
On viendra un petit peu plus tard pour les pronostics, voilà, une fois qu'on aura fini de faire la preview de tout ça. Hugo, toi, qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce combat? Voilà, Lounis l'a vaguement dit dans son argumentaire. On va s'attendre peut-être à une opposition de style. Hein, voilà, Cédric Doumbé plus sur le striking, Baki plus sur le sol.
Bah, y a plusieurs choses sur lesquelles je veux revenir. Déjà, premièrement, sur le fait que tu as dit qu'il était très athlétique. Là, il est dans la shape de sa vie.
C'est la forme physique.
Voilà, dans la forme physique de sa vie, c'est impressionnant. J'ai vu des photos. Là, le préparateur physique a fait un boulot mais monstrueux. Il a des dorsaux, c'est des ailes, d'accord. C'est, tu sais, on dirait un bodybuilder. Ça n'a aucun sens.
C'est une photo qui a pas mal tourné sur les réseaux
sociaux.
Ah ouais,
mais c'est un truc de fou. D'ailleurs,
il est impressionnant, oui.
Ah ouais, mais surtout pour son âge, encore plus maintenant là, oui, c'est waouh.
C'est vrai qu'on l'a pas dit. Cédric Doumbé, il a quoi? Il a 35, un truc comme ça.
Un peu moins. Mais
ouais, il a la trentaine, quoi.
Il a une bonne trentaine.
Ouais, Baki, il a que 22 ans. Donc c'est vraiment
je suis plus vieux que Baki, hein, pour...
Alors, moi aussi.
Oui, c'est vrai.
Et quel âge?
22 ans.
Ah, on a le même âge.
Ouais.
Ça veut dire que je pourrais être en train de combattre Cédric Doumbé. Et non, je suis en train de faire une émission de radio.
Je n'ai pas envie. You don't want that smoke.
mais du coup, donc il y a ça premièrement, et aussi un truc, c'est que bah là, on parlait de leur âge. Faut rappeler que malgré leur âge avancé, l'âge avancé de Cédric Doumbé. Il est à peu près au même niveau dans sa carrière que dans sa carrière en MMA, j'entends, que Baki. Bah, il s'engourde Shamsoudinov, donc on va beaucoup l'appeler Baki parce que c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, et en fait moi je comprenais pas au début pourquoi ce combat a été fait, parce que bah là ils ont les deux en fait ont beaucoup de choses à perdre, dans le sens où Baki et les deux peuvent perdre leur invincibilité, donc leur série de victoires, et ils peuvent perdre de la hype aussi, enfin, et pour le coup il n'y a pas beaucoup de profit en termes de d'avancée dans les classements, de tout ça, sur la scène internationale du MMA. Il n'y a pas grand chose à gagner en battant, enfin, pour en fait c'est ça, c'est que pour Cédric Doumbé, s'il bat Baki,
C'est normal.
Bah oui.
Si Baki bat Cédric Doumbé,
ah, ce sera impressionnant.
Il y aura des gens pour et je peux comprendre qui diront que c'est normal parce que c'est du MMA et pas du kickboxing, et que bah Baki en fait il fait du MMA
total
depuis depuis le début, alors que Cédric Doumbé est beaucoup plus axé striking. Ce qui va se passer, je pense, on va revenir sur les pronostics, mais sachant que Cédric Doumbé va dévisser la tête de Baki. Non, je fais la blague, mais je pense qu'il y a plus de chances que Cédric Doumbé mette KO Baki. Mais voilà, on va y revenir après. Si ça arrive, bah en fait, tout le monde dira, bah comme pour Jordan Zebo, où les gens ont dit, ah ouais, mais de toute façon, Cédric Doumbé, il est trop fort. Bon bah voilà, enfin il y a pas de surprise, quoi. C'est pas un upset. Donc en fait, je pense que ça va pas être très. J'espère qu'ils sont bien payés, parce que là pour le coup les deux ont beaucoup à perdre.
Ah, je pense, hein, on peut revenir un petit peu sur la dimension un petit peu populaire qu'il y a autour de cet événement.
Ah ouais.
Les places pour Bercy, donc l'accord Hotel Arena, se sont vendues en 20 minutes, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
Voilà, ouais, sachant que le PFL, c'est loin d'être une organisation majeure comme l'UFC.
C'est pas l'UFC.
Voilà, ouais, c'est vraiment clairement. Purement les deux adversaires, les deux combattants qui ont fait vendre les places, hein, c'est pas l'organisation ou quoi.
Ouais.
Et surtout, il y a eu un petit peu une guéguerre entre les deux combattants et entre les fans de chacun, un petit peu sur les réseaux sociaux,
depuis
sur Twitter
longtemps.
Notamment.
On a dit qu'on parlait pas des réseaux sociaux. Parce que je viens de me faire engueuler parce que je parle des réseaux sociaux dans l'émission.
Sauf qu'on n'en parle pas sous le même angle que toi.
C'est pas pareil. Voilà, la mauvaise foi est sortie. On commence à être habitué quand Lounis et Hugo sont dans la même pièce.
Il n'a pas tort. Ouais.
Voilà. Non, mais voilà aussi. Enfin, même faut le dire, ça rajoute un petit peu une dimension psychologique à l'approche du combat, quand on sait tout ce qu'il y a autour, la pression populaire qui est autour de ce combat.
Clairement.
C'est peut-être là-dessus où moi je mettrais un petit plus pour Baki, c'est que bah, comme Hugo t'a dit, lui il va arriver en position de non-favori en gros, d'outsider, donc il va avoir beaucoup moins de pression sur les épaules et il se dit, bah, en fait il a tout à gagner, c'est tout simple.
Je sais pas si.
Pas toi à gagner.
Enfin,
mais...
Non, mais. Enfin, c'est ça. C'est Baki a plus à gagner que Cédric Doumbé. Pour moi, vraiment, là, Cédric Doumbé, il a tout à perdre.
Mais
c'est...
pour moi, surtout, je. Enfin, même en essayant de me mettre à la place de Cédric Doumbé, je comprends pas pourquoi il. À part effectivement pour l'orgueil, mais bon, c'est.
Et pour l'argent. J'espère qu'ils sont très bien payés.
Pourquoi, je pense.
Pourquoi accepter un combat justement contre un petit jeune juste pour c'est pour jouer au coq sur les réseaux sociaux et dire oh, regardez je l'ai mis KO, oui bravo t'as mis KO un poulain quoi, c'est super, c'était
un
vraiment...
prospect, un très très gros
non, mais
prospect
un
quand
gros
même
prospect en France, je j'ai rien contre Baki oui, mais... du tout voilà. Mais les prospects comment dire enfin, Baki, je sais pas s'il vaut, tu vois, certains prospects qu'on peut avoir actuellement à l'UFC.
Bah, il est au début de sa carrière, c'est normal.
Ah oui, c'est non, ça.
Mais je sais pas trop quoi en penser pour l'instant.
Il est très bon, mais tout ça pour dire que. Bon, bref, c'est ça, c'est un peu le truc
bah,
qui m'énerve avec le combat, c'est. Tout ça pour une guerre de voilà d'ego sur Instagram quoi,
de la part de Doumbé, de la part de Doumbé qui dit non mais je tape Ramzat Chimaev, je tape Kamaru Usman, je tape Leon Edwards, je suis capable d'être champion de l'UFC
et
dire je suis capable voilà,
un gamin
un prospect,
de 22
un prospect,
ans quoi.
Un quelqu'un qui n'a pas et n'aura pas.
Bah, qui a enfin, pas
non,
décemment
pas
fait
jamais,
ses
mais...
preuves en fait.
Non, mais
c'est ça
puis,
en fait.
On sait qu'en striking c'est abyssal quoi la différence.
Oui. Vas-y. Non mais je vais revenir du coup juste un petit peu sur ce que dit Looney. C'est vrai que Baki c'est un prospect, mais c'est pas au niveau d'autres prospects français qu'on voit déjà à l'UFC. Je pense à Morgan Charrière, je pense à William Gomis qui eux ont déjà quand même un palmarès bien
plus
développé
oui,
que Baki.
Oui, non,
mais
après,
vraiment
alors,
encore
je,
un prospect un stade en dessous.
Oui, bon après ça c'est un oui bah mais comme bon. Tu dis c'est un niveau au-dessus les Morgan Charrière, les William Gomis, c'est un prospect à l'in... ouais oui.
J'ai
c'est vrai que vous avez raison,
parfois...
c'est un prospect à... c'est des prospects à l'international alors que Baki est un prospect français.
J'ai vu parfois sur des UFC numérotés ou même sur des Fight Night des prospects qui d'un point de vue technique étaient bon, je vais pas dire à des années lumière mais au moins deux crans au-dessus de Baki et c'est pas attention, hein, c'est pas enlever du tout le
juste le... peut-être définir ce que c'est prospect.
Prospect, en gros, c'est un jeune espoir, voilà, un nouveau venu qui a un gros voilà. potentiel et on attend beaucoup de choses de lui, tout simplement.
Je m'arrêterai là. Je pense que c'est un énorme combat, effectivement, pour le MMA français, pour la hype, pour l'engouement que ça crée. Mais d'un point de vue sportif, ça a vraiment pas beaucoup d'intérêt, voire
je suis
quasiment aucun.
On va passer tout de suite rapidement pronostic. Vous me dites qui gagne, quelle finition, quel round. C'est parti, Lounis.
Doumbé par KO technique, j'irai dans le troisième round. Je vais oser.
Okay. Hugo.
KO technique ?
Ouais.
Okay.
Je ne vois pas détruire, terrasser.
Moi, je me dis, il a trop parlé. Ça va être, je pense, Cédric Doumbé, round 1. KO.
Ok, moi, j'ai un petit scénario. Je vois Baki mettre vraiment en difficulté Doumbé sur 3-4 rounds. Vraiment, on se dit, putain, il va le faire, quoi. Tu vois, je pense qu'on va se dire ça.
Oh non,
et quatrième, Doumbé, hop, il trouve un bon angle, voilà, un petit terrain d'inattention,
oh,
hop, il est à la lumière.
Non, mais alors, attends, par contre, là, il faut bien se rendre compte d'un truc. Donc là, on fait les mêmes X, ça y est. Personne ne parie que Baki va gagner. Oh,
je
ne
le vois pas gagner. J'espère, hein, je t'en ai parlé.
Bon, je vais mettre une petite nuance. Je pense que Baki a les outils pour contrôler et peut-être finir au sol. En ground and pound ou en soumission, Cédric Doumbé. Mais ça voudrait dire que Cédric Doumbé n'aura pas fait un travail assez suffisant sur son sol.
Voilà du coup ce qu'on pouvait dire sur le gros événement de ce jeudi 7 mars. Donc on le rappelle aux alentours de 22h, 22h30 pour Baki contre Doumbé. On a hâte de voir ça. Maintenant on va parler un petit peu de boxe anglaise avec le retour du franco-camerounais Francis Ngannou. Qui va affronter la superstar américaine.
Je crois qu'il est anglais.
Anglais
erreur.
Je sais plus.
Anglais ou américain, mais...
Britannique. Britannique.
Il est britannique.
Donc, Anthony Joshua, voilà. Pareil, on ressort d'un combat très surprenant de Ngannou qui a mis en difficulté Tyson Fury. Certains disent qu'il l'aurait même battu à la décision, mais voilà, disons qu'il a fait jeu égal avec le meilleur boxeur du monde.
Clairement, oui, plus voilà. que jeu égal, mais voilà. Oui.
Est-ce qu'on s'attend à encore une nouvelle performance exceptionnelle de Francis Ngannou ?
Le combat va être... Alors là, c'est vraiment une autre manière... Ouais, c'est très différent du MMA parce que là, il y a seulement les points et on va dire le jeu de jambes des combattants que nous, on peut regarder. Mais Anthony Joshua, il a une boxe qui est assez différente de celle de Tyson Fury. Et surtout, à la différence de Tyson Fury, il s'est plusieurs fois frotté à des adversaires qui étaient à des boxeurs en fait, qui avaient un niveau technique auquel justement on a reproché Tyson Fury de ne pas vouloir se frotter. Je pense notamment à Alexandre Usyk, donc un combattant justement qui a souvent appelé Tyson Fury. Tyson Fury n'a jamais souhaité l'affronter. Et Usyk, justement,
c'était prévu là.
Pour décembre, je crois.
Ça a été annulé par blessure ou maladie.
Usyk qui est très très véloce, qui a des combinaisons assez incroyables, qui est pas nécessairement connu pour son knockout power, mais par contre d'un point de vue technique il est monstrueux. Et Joshua c'est un peu ça aussi, il y a même eu des comparaisons avec Cyril Gane à ce niveau là mais Joshua c'est pas un boxeur qui est connu justement pour sa puissance de KO comme un Deontay Wilder ou un Gervonta Davis dans une catégorie un peu en dessous, mais par contre il a vraiment une fluidité et surtout une endurance, un cardio qui est assez impressionnant. Et surtout il a là le simple fait qu'il n'ait pas peur d'affronter Francis Ngannou malgré ce qu'il a vu du combat contre Tyson Fury, c'est quand même assez incroyable. Je rappelle donc Anthony Joshua, même s'il a perdu, mais il a plusieurs fois affronté Andy Ruiz et Alexandre Usyk. Je pense que Anthony Joshua à l'inverse de Fury, ne prend pas Francis Ngannou à la légère.
Vu ce qui s'est passé, en fait, il est averti.
Exactement. Et je pense qu'il peut réussir à le manœuvrer et à le tenir à distance.
Hugo, petite vision sur ce combat.
Ouais, rapide, hein, parce que la boxe anglaise, je préfère le MMA. Hein. Ancien champion du monde poids lourd, quand même, de plusieurs 30, organisations.
30 Anthony victoires Joshua. Pour 3 défaites.
Voilà. Donc, face à Andy Ruiz, du coup, tu as dit que c'était un gros client.
Gros client.
Et puis après, sinon, face à Alexander Usyk, qui va affronter Tyson Fury bientôt, on l'espère. Gros client, Anthony Joshua. Voilà. Moi, j'espère quand même que Francis Ngannou va continuer à défoncer des boxeurs anglais, parce que je trouve ça très rigolo qu'un petit mec du MMA,
petit.
Bon, tout est relatif, mais enfin voilà, les gens l'ont moqué, les gens ont dit qu'il n'allait pas le faire, que ce soit dans sa carrière de MMA, que ce soit dans sa carrière boxe anglaise. On a beaucoup douté de Francis Ngannou.
Vous aviez tous tort. Un amateur, oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, on le prenait pas au sérieux et au final, il a forcé Tyson Fury et le monde de la boxe anglaise à le prendre au sérieux. Ça fait très plaisir.
Moi, je vais aller un petit peu dans la même idée que Lounis a commencé à exprimer. Je pense que le combat Fury-Ngannou était un peu... disons que Ngannou, je pense, a surperformé et que Tyson Fury a un peu sous-performé. Il a eu un petit peu l'effet de surprise. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Gros respect. Là, maintenant, on va avoir Anthony Joshua qui va être averti, qui aura eu aussi... qui aura vu un combat, qui aura de quoi analyser un petit peu les forces.
C'est un très bon fight IQ,
c'est ça. Qui aura eu le temps d'analyser un petit peu les forces d'Ngannou. Ngannou, on le rappelle, il est quand même vieillissant. Techniquement, ça, même en MMA, alors il était très propre contre Tyson Fury, mais ça n'a jamais été vraiment son fort. Donc je pense quand même voir Anthony Joshua dominer Francis Ngannou. Maintenant, avec Ngannou, on le sait tous, il a de la dynamite dans les mains.
Il y a
simplement
un uppercut qui passe, ça peut
se faire. Même avec les gros gants, quoi. Même avec les gants c'est combien? C'est 8?
Je sais pas, 8 centimes. Ouais.
Il doit être en 18, lui, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Gros gants de boxe, quoi. Pas les petites mitaines de MMA. Voilà un petit peu. Donc, on a fait rapidement sur Joshua Ngannou, forcément. Même nous, on n'est pas des experts en boxe anglaise, donc on fait un petit peu vite fait. On va faire la première pause musicale avant d'attaquer le gros morceau de la semaine quand même. C'est quoi déjà la première musique?
Alors du coup, on s'écoute It Ain't Hard to Tell de Nas.
Et ben voilà, c'est parti, à tout de suite.
Like the Afrocentric Asian, half man, half amazing. 'Cause in my physical, I can't explain. express through song, delete stress like Motrin, then extend strong. I drink Moet with Medusa, give a shotguns in hell. From the split that I lived in hell, it ain't hard to tell.
On est de retour en directo sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a fait déjà un petit première petite preview du PFL Paris qui aura lieu donc ce jeudi. On a fait la preview du combat de boxe entre Anthony Joshua et Francis Ngannou qui aura lieu, donc je ne l'ai pas dit, mais vendredi. Et ensuite on va s'intéresser à l'événement qu'il y aura samedi. Voilà, et cet événement c'est l'UFC 299 qui aura lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche à Miami aux États-Unis.
Petite carte tranquille.
Carte
exceptionnelle. On va évidemment commencer par le combat qui nous intéresse tous, celui qu'on attend depuis des mois. On en a énormément parlé déjà dans l'émission. Le Français Benoît Saint-Denis qui affronte la légende Dustin Poirier. Juste une petite prise de température comme ça. En termes de hype, de 1 à 10, on est à combien là autour du plateau?
Moi, je suis mesuré, mais en vrai, pas loin de 8,5. Hein, voilà. On est à ce niveau-là. Hein.
Donc, Lounis le mesurait 8,5. Hugo, l'inverse de la mesure, il va nous dire 14.
Eh bien, tu sais quoi? Moi, je suis quelqu'un de très raisonné et je me suis calmé beaucoup. Mm-hmm. Voilà. Et moi, je pense que je vais dire un bon 8. Voilà.
Ok, d'accord.
Un bon 8. J'ai souffert de notre dernière sortie quand on a regardé Alexander Volkanovski se faire éteindre au deuxième round.
Ouais, j'aurais pu récolter beaucoup de sel. J'avais eu ma paluche.
Ça m'a beaucoup calmé. J'ai eu des flashbacks de Jones Gann aussi. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait que moi. Il y avait que moi qui pétais des câbles à la fin des soirées UFC.
Il faut toujours être pessimiste,
voilà.
Comme
c'est
ça.
Donc je suis très hype, mais c'est mon premier pas vers le sevrage.
On est fiers de toi,
voilà,
ici, Hugo.
Vers le sevrage de la hype. Voilà.
Très bien. Non, mais moi, j'allais sur un 9. Hein,
ouais, 9 carrément.
Ouais, 9.
Ok, je pense que je suis à 10 en vrai.
Non, mais oui, franchement, c'est un des combats que je ne suis pas le MMA depuis très très longtemps, mais c'est peut-être le combat que j'attends le plus derrière Jones Cialgan, tu vois.
Non, mais il y a de quoi.
Donc voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le vif du sujet, c'est ce qui nous intéresse ici. Quelles sont les chances de Benoît Saint-Denis? Quelles sont les armes de Benoît Saint-Denis pour affronter Dustin Poirier? Voilà, directement, hop, je vous mets dans le bain.
Tu veux commencer, Hugo?
Ouais, vas-y, Hugo, peut-être.
Alors, moi, je pense que y a quelque chose à prendre en note, c'est que Dustin Poirier est quelqu'un de très complet. D'accord, donc excellent striking, excellent.
Très belle boxe anglaise.
Très belle boxe anglaise.
Une des plus belles, ouais, clairement.
Très intelligent, voilà. Il a perdu vraiment uniquement contre des gros, gros, gros noms. Voilà, donc ça a été très impressionnant. Son CV est très impressionnant. Mais également très bon jujitsu, hein, ceinture noire de jujitsu, Dustin Poirier, oui. Le premier et le seul à terminer par soumission Michael Chandler. Donc bon, moi j'avais envie de dire à la base, oui, Benoît Saint-Denis, il va l'amener au sol, ça va se passer comme ça tout le combat, il va le maintenir. Et en fait, finalement, je pense pas. Je pense que Benoît, il va. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je pense que Benoît va finir par s'imposer dans un domaine ou dans l'autre.
Sur les pronostics, voilà. Plus en détail. Lounis, qu'est-ce qui, selon toi, sont un petit peu les armes, les points forts de Benoît Saint-Denis pour ce combat ?
Il s'arrête jamais.
C'est son mental.
C'est ça le truc. Bah, c'est son mental.
Le
mais
problème, c'est qu'en face, c'est la même.
Non, mais oui.
En face, il a un client.
C'est pour ça, il y a deux TGV, là, japonais. Vous savez, les trucs qui foncent quasiment à la vitesse d'une balle qui vont se rentrer dedans.
C'est quoi l'expression en anglais? C'est une force instoppable contre un objet.
C'est pas exactement ça. Là, c'est vraiment deux objets qui vont extrêmement vite, qui vont se percuter, en fait. Non, Benoît Saint-Denis, il s'arrête jamais, en fait. Il a un cardio, une endurance, une résilience même à la douleur et à, comment dire, à...
C'est exceptionnel.
Mais qui est vraiment, vraiment assez... Enfin, moi, j'ai pas peur de... Elle est vraiment assez flippante, quoi.
Ah oui, mais Benoît Saint-Denis est quelqu'un de flippant.
Mais même, il est très très technique, c'est vraiment pas juste, et je respecte ça, hein, mais c'est pas un brawler comme par exemple un Don Fry, un Mark Hunt ou des combattants comme ça qui étaient connus pour vraiment rentrer tête baissée dans la mêlée et envoyer justement et rendre coup sur coup. Non, Benoît, il y a de ça, mais il est il sait être vraiment létal sur des enchaînements, on l'a vu contre Matrevola, très technique. Il arrive vraiment, il a un très bon coup d'œil, il sait repérer les ouvertures, les fenêtres pour vraiment finaliser l'adversaire le plus vite. Et quand il n'arrive pas juste à le finaliser de manière, bon, on va dire propre et expéditif, comme ça a été le cas lors de son dernier combat,
il tabasse.
Ben juste, il vous lamine en fait petit à petit.
Mais d'ailleurs, en fait, je pense à un truc vite fait. On parle de Benoît Saint-Denis très intelligent, etc. Mais il arrive aussi avec un très bon game plan. Et c'est pour ça que je voudrais dire, la meilleure arme de Benoît Saint-Denis, c'est Daniel Warin. C'est l'entraîneur, le stratège.
Tout à fait.
Il est monstrueux aussi.
Non, mais c'est vrai, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Lounis. Mais c'est vrai que Benoît Saint-Denis, en fait... Il ne fait pas partie, comme tu as dit, de ces combattants qui vont essayer d'aller chercher vite les finitions, d'enchaîner très rapidement, parce que comme ça, ça les empêche de réfléchir. Juste, ils envoient vraiment. Lui, il se permet d'envoyer vite ses enchaînements parce qu'il réfléchit vite, tout simplement. Et ça, c'est une très, très grosse, ça fait une très, très grosse différence dans le combat. Maintenant, parce qu'on parle de Benoît Saint-Denis, on a dit toutes ses armes, voilà, très complet, pieds, poings, sol, tout ça. Le mec en face, c'est Dustin Poirier. En fait, c'est le client parfait.
Tu peux peut-être introduire Dustin Poirier vite fait quand même pour ceux qui nous écoutent depuis pas longtemps.
Dustin Poirier, donc combattant des poids légers, combattant qui n'a jamais été champion, mais qui a toujours été dans le très
champion intérimaire.
Il a été champion intérimaire, mais il est fréquemment considéré comme le meilleur combattant, avec Tony Ferguson, comme le meilleur combattant de jamais être devenu champion de sa catégorie.
Le roi sans couronne, voilà.
C'est ça, tout à fait. Combattant américain, donc on l'a dit, très bonne boxe anglaise, qui a perdu que contre les meilleurs.
Oui.
Ça fait depuis 2014 qu'il est dans le top 15 de la catégorie des poids légers.
2016, je crois.
Mais... Il a très bien tenu tête à Khabib. Bon, dans la mesure où c'est possible face à Khabib.
Mais quand même.
Il a failli le finaliser, mais bon, comme Khabib est insubmissible,
insoumersible.
Ouais, voilà, on peut pas le soumettre. Insubmersible. Non, mais c'est pas du tout le mot que je cherchais, mais bon.
Mais c'est ça.
Mais c'est stylé. Voilà, donc comme Khabib est interminable, ben en fait, il a pas réussi, mais il l'avait en guillotine. Enfin voilà. Dustin a fait un des combats. Lounis, je crois qu'on en parlait il y a pas longtemps. Je me demande si tu m'as pas dit ça et j'étais plutôt d'accord. Dustin a offert à Khabib un de ses combats les plus
relevés.
Coriaces.
Oui, ouais. Clairement. Avec voilà. Conor, je pense que c'est le seul d'ailleurs. Hein, mais...
Voilà. Donc, ça, d'ailleurs, on parle de Conor. Il a battu Conor McGregor deux fois. Il a mis KO une fois. Hein, voilà.
Le premier à mettre KO Conor McGregor.
Il a fait une guerre absolument monumentale contre Dan Hooker. Ça, c'est un combat à voir.
Personne n'en parle alors que ce combat est phénoménal.
J'en reparle en plus parce que récemment, l'UFC a reposté le combat en ligne sur YouTube.
J'ai l'impression que tout le monde l'a oublié.
C'est monstrueux.
Mais justement, j'ai vu un petit peu revenir sur le devant de la scène.
C'est de la vraie bagarre, ça.
Et en fait, c'est là-dessus où je veux vraiment rebondir. C'est que ce soit Benoît Saint-Denis ou Dustin Poirier, les mecs, c'est des guerriers. Les mecs, quand faut se rentrer dedans sans réfléchir, quand faut y aller à fond, mentalement, ils vont pas lâcher, pas sans réfléchir, mais quand faut y aller à fond, mentalement, ils vont être prêts, ils vont répondre, et à la fin, ils vont se prendre dans les bras en étant contents. Quoi. C'est...
Dustin Poirier, très bonne personne, en fait.
Ouais, c'est
très sympathique, très fair play.
C'est surtout que, on pourrait, comme ça, en voyant le physique ou le visage des deux combattants, on pourrait dire, ah mince, Benoît Saint-Denis, il est vraiment impitoyable. Et puis Dustin Poirier, il s'est pris un KO par Justin Gaethje, puis il a l'air relativement gentil. Bon, c'est probablement Benoît Saint-Denis qui va trouver l'avantage. Non, quand la cage se ferme, Dustin Poirier, c'est votre pire cauchemar. Je pense que vraiment dans la catégorie des combattants en anglais de brawlers, c'est-à-dire vraiment de ceux des cogneurs, quoi, ceux qui rentrent dans la manière. C'est vraiment ça. Je pense vraiment que Poirier, c'est l'un des meilleurs dans cette catégorie-là, parce qu'il arrive à rendre justement la cogne vraiment propre. C'est j'ai pas d'autres mots pour le décrire.
Il y a que à l'heure actuelle, il y aurait peut-être que Justin Gaethje qui peut lui tenir tête.
Le seul dans cette catégorie-là, c'est celui qui l'a mis KO.
Et peut-être Benoît Saint-Denis.
Mais justement, c'est ça, si Benoît Saint-Denis s'impose face à Dustin Poirier et qu'il s'impose par finition, donc par KO ou soumission, là il envoie un message, honnêtement, moi je suis Dana White, je lui donne le title shot après parce que Dustin Poirier.
Parce qu'il y a quand même la queue.
Oui, c'est vrai, il y a la queue avant. Mais ce que je veux dire, c'est que la vitesse à laquelle. Parce que s'il s'impose round 1 vraiment hyper impressionnant, dominant, si tu domines Dustin Poirier, t'as rien à faire. Benoît Saint-Denis est 12e actuellement. Si tu domines Dustin Poirier, t'as rien à faire à la 12e place. À la première non plus. Tu vas direct au rang de champion, tu vois.
Je suis plutôt d'accord. Après, comme on a dit, le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de prétendants qui ont déjà pris leur billet pour aller affronter Islam Makhachev, le champion. donc voilà, on va passer au pronostic. Hugo, ton pronostic pour Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier. Ça réfléchit fort.
Je vais faire comme d'habitude, je vais faire un pronostic du cœur, un pronostic de la tête. Je pense, mon pronostic du cœur, c'est je sens que Benoît, premier round, ça va y aller. Maintenant, si je réfléchis un peu et que j'arrête d'être un fanboy, je me dis, Benoît par finition, mais genre troisième ou quatrième round, tu vois.
Ok.
Je pense
non,
que.
Non, mais c'est pas déconnant. Je pense
que c'est va tenir plus.
Voilà. Le Nice.
Je vais vous dire, j'aurais misé. C'est très compliqué.
Attention.
Je pense, honnêtement, ça va être extrêmement violent. Mais ça peut faire comme l'Experia contre Thierry Prochaska, c'est-à-dire se jouer à une erreur de l'un et un bon coup. Donc je vais dire. Benoît Saint-Denis par KO technique au quatrième round, quelque chose comme ça. Je pense vraiment que ça va être une guerre pour le coup.
Ça va être une guerre, c'est sûr.
Tout à fait. Sauf si ça va pas très loin.
Je serais
un peu dégoûté. C'est le genre de combat où j'aimerais limite voir un combat en 5 rounds et Benoît gagner à la décision la première fois en plus, je crois.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Ça me poserait pas de problème.
Et c'est pas impossible.
Ah oui, tout à fait. Moi, j'allais sur Benoît Saint-Denis par soumission au round 2. J'imagine bien un bon.
Ah oui.
Ouais, tu vois, j'imagine bien un bon enchaînement qui connecte. Dustin Poirier un peu sonné qui va au sol, qui donne son dos un peu maladroitement et hop.
Oui, c'est un scénario plausible.
On l'a un petit peu dit comme ça rapidement, on a survolé ça, mais il ressort il s'est pris un KO dans son dernier combat contre Justin Gaethje, donc peut-être que ça a un petit peu effrité son menton et qu'il est devenu un peu plus fragile.
Il est un peu vieillissant aussi.
Et en plus, il est très. Oui, il a
35 ans. Donc oui, maintenant, c'est un homme assez âgé quand même pour ce sport.
Tout à fait. Voilà pour le co-main event de l'UFC 299. On va s'attarder maintenant sur le main event. Main event, combat pour le titre des poids coqs. Là, le petit chouchou de l'UFC, on va dire, Sean O'Malley, qui va affronter sa némésis Marlon Vera. C'est un combat, pareil, on peut s'attendre à un combat assez explosif.
Oui. Voilà. Pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais parce que Marlon Vera, c'est un combattant que j'adore, mais même s'il a, il a quelques KO assez spectaculaires à son actif, hein, je pense notamment à celui sur Frankie Edgar où il envoie comme ça un front kick en plein visage qui est assez...
Moi j'ai celui sur Dominique Cruz en tête.
Ouais,
où
par exemple.
Il lui pète le nez à coups de jambes.
Non, mais typiquement. Mais Marlon Vera, dans l'absolu, même s'il a quelques KO à son actif, à l'inverse de Sean O'Malley, il aime vraiment travailler sur le volume. Il est très propre, justement, ouais. Il réfléchit vraiment bien et il connecte comme ça un maximum. Il submerge vraiment son adversaire de coups. À l'inverse, Sean O'Malley, il a un peu cette école, je veux dire, Conor McGregor, entre 2013 et 2016. C'est-à-dire, il essaye vraiment, et c'est ce qu'il a fait contre Aljamain Sterling, de connecter sur une très très belle ouverture.
En fait, c'est ça.
Et de mettre un KO très propre.
C'est ça, il manœuvre un petit peu son adversaire pour que son adversaire fasse l'erreur, que O'Malley ait une ouverture. Et là, dans ce cas-là, techniquement, il est très propre, c'est donc ça. Ça va connecter et ça va faire mal.
Puis il y a aussi l'allonge, en fait, qui est pas du tout la même. O'Malley, il est très très grand, justement très longiligne pour la catégorie de poids à laquelle il apparaît. C'est pour ça que le combat entre lui et Petriad était assez marrant à regarder, parce que la différence de physique était complètement dingue. Et Marlon Vera, oui, il a pas justement tout à fait la même allonge qu'O'Malley, donc je pense qu'il va probablement essayer de casser la distance et de se rapprocher, à voir comment O'Malley, justement, il peut essayer de renvoyer, de contrer, de repousser Vera. Enfin, je suis très curieux de voir le combat, honnêtement.
Hugo, toi et moi, on est un petit peu dans le même cas. On aime bien Marlon Vera. C'est un combattant qu'on aime bien tous les deux. Quelles sont, selon toi, les armes qu'il pourrait un petit peu déployer pour essayer de défaire le champion en titre ?
Bah, je rejoins un peu Lounis dans le sens où il va falloir casser la distance. Et j'ai envie de dire aller au sol, parce qu'au Malais, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand les combattants deviennent champions, souvent, ils deviennent meilleurs. C'est un phénomène qu'on a observé régulièrement. Je me dis, si Sean O'Malley a le petit buff champion plus très motivé face à Marlon Vera, parce que rappelons-le, c'est sa seule défaite.
Tout à fait. Ouais.
C'est sa seule
Marlon
défaite.
Vera, en fait, ils se sont déjà affrontés une fois, les deux combattants. Marlon Vera avait battu Sean O'Malley.
Dans des conditions controversé.
Non, c'est pas controversé. Sean O'Malley s'est blessé.
Sean O'Malley a eu une blessure au genou qui le faisait boiter, en fait. C'est-à-dire qu'il pouvait plus utiliser sa jambe gauche, je crois, un truc dans le genre.
Voilà, c'est ça. Donc peut-être, avec un O'Malley en pleine possession de ses moyens, ça va peut-être pas être la même tisane, si je peux me permettre.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça que ce combat a lieu. C'est parce qu'il y a de la hype, parce que Sean O'Malley considère que c'était. Aurèle me regarde mal.
Je suis pas sûr de mon expression. C'est pour
T'as
ça.
T'as dit quoi?
J'ai dit, ça va pas être la même tisane.
Ça va pas être la même tisane.
Allons-y.
Mais du coup, oui, ce combat a lieu aussi à cause de la hype, parce que Marlon Vera est quand même cinquième et il y a plusieurs personnes avant qui auraient pu prétendre au title shot, qui sont voilà.
Notamment un petit géorgien avec un chapeau sans Valishvili.
même Cory Sandhagen aurait mérité.
Ouais, voilà. Cory Sandhagen qui a mis une leçon à Marlon Vera d'ailleurs.
C'est ça.
Mais qui a eu des défaites malencontreuses entre temps. Mais voilà, donc Sean O'Malley considère qu'il est invaincu parce que la blessure dans la cage. Considère que son combat face à Marlon Vera ne compte pas comme une défaite parce que il était blessé et que, enfin, parce qu'il a été blessé dans la cage par une coïncidence. C'est selon lui, hein, évidemment, mais ça compte quand même sur une défaite, hein, évidemment. Donc voilà, Marlon Vera a déjà battu Sean O'Malley, c'est ça qu'il faut retenir.
Tout à fait. Donc, moi, j'ai parlé un petit peu rapidement. Très rapidement. Voilà, moi, j'aime beaucoup Marlon Vera, comme j'ai dit. Mais c'est vrai que ces deux dernières performances m'ont plutôt déçu. Il ressortait d'un très beau combat contre Dominique Cruz. Défaite contre Cory Sandhagen. Et là, dernièrement, c'était victoire un peu timide contre un Pedro Munhoz, qui est un très, très bon combattant, certes, mais qui est loin d'être un des tueurs à gages de la catégorie. Donc voilà, au début j'étais plutôt hypé par Marlon Vera, je me disais peut-être qu'il peut aller plus loin. C'est vrai que bon, il m'a un petit peu, il a un peu fait redescendre ma hype sur les derniers combats. Je vais passer à mon pronostic, je vois une victoire de Sean O'Malley par décision. Voilà, tout simplement, victoire par décision, après 5 rounds très intéressants, je pense.
Lounis. Vas-y, Lounis.
Comme vous voulez.
Vas-y.
Moi, en vrai, et vraiment, je suis pas du tout un fanboy, mais juste pour l'histoire, j'aimerais vraiment genre que O'Malley claque un KO expéditif sur Marlon Vera. D'un autre côté, ça me ferait beaucoup rire que Marlon Vera batte O'Malley et devienne champion. Il y aurait vraiment le côté Alex Pereira sur Adesanya. Mais allez, je vais dire KO de, mais vraiment KO net de d'O'Malley au deuxième round. Tiens.
D'O'Malley sur Marlon Vera.
Sur Marlon Vera, tout à fait.
C'est marrant parce que j'ai cru que tu allais dire l'inverse parce que tu disais pour l'histoire et tout. Il faut savoir que Marlon Vera a vraiment une histoire tragique.
Non, mais
c'est bon, pas une Charles Oliveira non plus, mais c'est vraiment impressionnant d'où il vient et comment il a galéré.
J'ai beaucoup de sympathie pour Marlon Vera.
Oui, bien sûr. Mais on a tous, je pense que c'est pas possible de détester Marlon Vera. Mais voilà, donc super combattant, super sympa, super personne. Moi, mon pronostic, je pense que je vais dire Sean O'Malley par KO. Pas au premier round, ça je pense pas, mais je pense que on peut plutôt se rapprocher d'un KO au troisième round. Voilà, troisième round, je pense c'est assez raisonnable.
Ouais, tout à fait.
Je pense qu'il a des choses à prouver, Sean O'Malley là.
Je mets juste une petite info comme ça. Marlon Vera est quand même très résistant au coup.
Oui.
Voilà, il a un très très bon menton.
TKO,
ça marche. Voilà donc pour le co-main event et le main event de l'UFC 299. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour débriefer, pour faire la prévue un petit peu des autres combats de l'événement. On écoute quoi?
C'est King Kunta de Kendrick Lamar.
Tout à fait. Et ben on écoute Kendrick Lamar et on se retrouve juste après. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh, no. I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. Just to go back to the hood, see my enemy and say,
oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
You goat mouth mammy fuck.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail. If I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city. Everybody screaming Compton, I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, Betty, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And now I was a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate straight from the bottom. It's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
We won't fall.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez le Bagarre Club. On va continuer un petit peu notre preview de l'UFC 299 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche cette semaine. On a parlé des deux combats principaux, donc le co-main event et le main event. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu, voilà, on va survoler rapidement tous ensemble le reste de la carte. Déjà, c'est une carte exceptionnelle sur tous les aspects. En tout le long, on n'a que des combats de fous. Lounis, je vais te lancer sur un combat et un combattant en particulier que tu affectionnes particulièrement. Oui. Le retour du russe Petr Yan dans la cage.
Je suis très heureux de revoir Petr Yan dans la cage parce que bon, ces deux derniers combats, c'était des combats extrêmement disputés et dont le résultat a pas été en sa faveur. Hein. Donc contre Aljamain Sterling une deuxième fois et contre Sean O'Malley, l'actuel champion des poids coqs. Et là, il affronte Song Yudong qui est un très très bon combattant. Que beaucoup considèrent justement à terme qui pourrait devenir le futur de la catégorie des poids coqs, qui est un très très bon kickboxer, qui s'entraîne souvent avec Willie Zhang d'ailleurs, donc là championne également de MMA féminin de l'UFC. Song Yedong, il a un très très haut niveau à la fois de volume. Il n'est pas vraiment connu justement pour sa puissance de KO, mais c'est ça qui peut rendre le combat intéressant contre Petr Yan. Petr Yan, et c'est un peu devenu d'ailleurs une blague récurrente sur internet, c'est un combattant qui devient, en fait, c'est un peu comme Hulk. Il devient de plus en plus violent et de plus en plus intense à mesure que les rounds passent. Et donc, face à un combattant comme Song Yudong, qui justement, lui, travaille beaucoup en volume, je pense que, alors même si là, justement, on n'est pas en 5 rounds, mais en 3 rounds, je pense qu'on peut avoir vraiment un feu d'artifice à partir de... Allez, la deuxième moitié du... Si Petr Yan s'en tient au game plan qu'il a jusqu'à présent, je pense qu'on peut vraiment avoir un round absolument légendaire au niveau du second ou du troisième.
Voilà, donc on va pas s'étendre beaucoup plus sur tous les combats. Hugo, maintenant, est-ce qu'il y a un combat dont tu souhaites parler, peut-être?
Gilbert Burns. Alors Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena, ça va être très intéressant. Gilbert Burns qui a fait une contre-performance, mais qui a perdu face à Belal Muhammad récemment à cause d'une blessure au bras. Voilà, donc c'était un peu dommage. Le combat était un peu à sens unique à cause de ça. Donc je me dis un Gilbert Burns en bonne forme face à Jack Della Maddalena, qui est un gros prospect qui est en train de monter et qui est hyper fort. Donc ça peut être très intéressant. Je vais commencer par le combat de Nerd. Il y a Robelis d'Espagne qui va combattre sur cette carte. Pour ceux qui ne connaissent pas Robelis d'Espagne, c'est normal. C'est un mec qui vient du Taekwondo. Il a donc 4 combats en MMA. Donc c'est son premier combat à l'UFC là. Donc pour vous le présenter un petit peu, le mec a 4 combats, 4 victoires, 4 KO. Il a jamais passé le premier round. Et sur ces 4 combats, les 3 derniers, il y en a un qui a duré 12 secondes, un qui a duré 3 secondes et un qui a duré 4 secondes. Voilà. Donc je ne sais pas si ce mec a une chance phénoménale et si juste il balance une patate et il espère que ça va passer ou s'il est hyper puissant. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça parce que il a l'air monstrueux. D'ailleurs, il a battu le record de la plus grande allonge à l'UFC battant John Jones. Voilà. Donc ça, j'ai très hâte de voir ça. Et puis à part ça, Michel Pereira qui va combattre, qui personnage de Mortal Kombat. On va avoir du Pedro Munhoz, du Matheus Gamrot, du Rafael dos Anjos.
Rafael dos Anjos, ancien champion des poids légers.
Voilà, qui ne refuse jamais un combat compliqué. Et en l'occurrence, Matheus Gamrot est un combat compliqué.
Matheus Gamrot qui fait partie du top de la catégorie des poids légers, donc la catégorie sixième. De Benoît Saint-Denis. Sixième, voilà, et qui est un très très gros lutteur.
Voilà, Curtis Blades contre Jailton Almeida, qui va probablement être un combat très très chiant, mais qui va déterminer si Jailton Almeida passe au niveau supérieur dans sa catégorie des poids lourds ou pas, et on risque d'avoir un Almeida Cyril potentiellement prochainement. Voilà, à part ça, et le dernier dont je voulais parler, Kevin Holland contre Michael Page, donc qui s'annonce explosif.
C'est le combat des paillettes, on va dire.
Oui, c'est vraiment clairement. C'est le combat divertissant, celui-là.
C'est ça. C'est deux combattants qui sont pas forcément hyper réguliers. Michael Page, par contre, ça va être son premier combat à l'UFC. Voilà, il nous vient tout droit du Bellator. Il a fait des très belles performances au Bellator. Donc, très marrant à regarder. Même en dehors de la cage, voilà, il parle beaucoup. Ça amuse un petit peu les gens sur les réseaux. Donc, voilà, il a un petit peu un nom comme ça qui résonne dans la tête des fans de MMA. Kevin Holland, bah, c'est un petit peu le même principe. Sauf qu'il est quand même un peu plus installé.
C'est quoi son surnom déjà, Aurélien ? Est-ce que tu te rappelles ?
Non,
c'est Big Mouth. Parce qu'il parle tout le temps.
C'est un peu.
Excusez-moi l'expression, mais il ferme jamais sa gueule, vraiment. C'est terrible.
En fait, Kevin Holland, c'est ça. C'est même moi, en fait, j'aime beaucoup regarder parce que c'est vraiment le Deadpool, quoi, de l'UFC. Il parle tout le temps. Il se passe tout le temps un truc pendant les combats, quoi.
Mais vraiment. Référence de nerd, mais oui.
Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que. C'est pas, je pense pas qu'il a le calibre pour être champion, mais il y a toujours un truc de dingue qui va se passer pendant le combat. Soit il va tenter une espèce d'attaque à la Tony Ferguson qu'on n'aura pas vu venir, soit il y a un KO qui va se profiter. À chaque fois, il se passe un truc avec lui, quoi.
Bah, il est très compliqué à appréhender comme combattant. Il a un style très imprévisible.
C'est ça.
Mais du coup, ça va être très fun.
À la différence, du coup, de son adversaire Michael Page, c'est un combattant qui est quand même un petit peu plus installé à l'UFC.
Oui.
Il est dans les classements des poids welter.
Welter,
tout à
très
fait.
Régulier comme combattant.
Voilà, plutôt régulier, c'est ça. On sent quand même qu'il y a un plafond de verre dès qu'il s'agit d'affronter des combattants un petit peu au-dessus. Mais bon, voilà, on va pas lui en vouloir. Ça reste un combattant très très fort.
On adore le regarder en tout cas.
On lui interdit pas de progresser non plus. Hein, voilà, tout simplement. Et ouais, non, c'est très intéressant. Moi, je me rappelle, je crois, c'est quand il combat, je sais plus qui.
Steven Thompson.
Ouais, c'est ça. Ou,
très beau combat.
Il se fait taper dessus, il dit à son adversaire « Oh mec, t'as bu, ça fait mal
!» C'est possible.
Un truc comme ça.
Non, mais il y a un mème aussi qui est très rigolo, c'est quand il a combattu Joachim Buckley, donc ancien adversaire de Nassourdine Imavov au premier UFC Paris. Et en fait, il y a un mème où il fait genre « Mec, t'as une crotte de nez ?» Et genre, tu vois le mec en face qui s'essuie, et l'autre qui dit « Bon garçon, et qui le mec a... » Bon, c'est un cut, évidemment, il l'a pas fait dans cet ordre-là, mais du coup, c'est très, enfin, si, du coup, dans cet ordre-là, mais pas aussi rapproché.
Il y a le moment,
c'est très rigolo parce que c'est débile, c'est.
Il y a aussi, je termine juste là-dessus, mais il y a aussi le moment où, alors, je sais plus contre quel adversaire, mais il a fini au sol et en plein dans une guillotine, et le gong, enfin, du coup, la fin du round a sonné, et Kevin Holland qui était juste en train, justement, de lever les deux pouces face à la caméra, genre, tout va bien, vous inquiétez pas.
Alors, qu'il est en train de se faire entrer.
Oui, c'est ça, c'était avant la fin du round, c'est-à-dire qu'il restait genre 10 secondes et le mec était en train de forcer toutes ses forces pour essayer de l'étrangler, et lui il était comme ça et juste il souriait, il avait les deux pouces en regardant la caméra en l'air, c'était vraiment très rigolo.
Voilà, donc pour résumer un petit peu, pas mal de combats intéressants à se mettre sous la dent tout au long de la soirée. Voilà. On a encore, non, on n'a pas de temps, j'allais dire on a encore un peu de temps, mais
parce
qu'il y a l'émission juste après.
Ouais, mais tu peux conclure vite fait, je pense. Oui, ça dépend de quoi tu veux parler, mais
non, mais j'allais nous lancer sur une série de pronos, mais vas-y, c'est pas grave, on n'aura pas le temps.
Viva Petrian, c'est juste ce que j'ai à dire.
Ce qu'on va dire, est-ce que parmi tous les combats qu'on a cités, pas les deux comme main event évidemment, mais tous les petits combats là qu'on a cités, lequel vous hype le plus?
Bah, pour moi, Robelis d'Espagne contre Josh Parisien.
Ok,
du coup.
Donc la
le
star
taekwondoïste. Le taekwondoïste, ouais. Qui a tout approuvé.
Je suis désolé d'être un fanboy, mais oui, vraiment Petrian, hein, j'ai trop hâte.
Petrian.
Vraiment.
Donc le petit chouchou de Lunis.
Ah ouais, clairement.
Moi, je vais aller sur, bah, parmi tous ceux qu'on a cités, peut-être le combat qui sportivement va être le plus intéressant, ça va être Gilbert Burns contre Jack de la Maddalena.
Ça va être trop bien.
Je suis assez d'accord.
Donc on a un petit peu nos combats chouchous, sans évidemment oublier Benoît Saint-Denis. Voilà, moment de vérité. Hein,
On mange extrêmement bien
cette semaine.
En tant que fan de MMA, c'est trop bien.
C'est ça. Donc n'oubliez pas les événements dont on a parlé jeudi soir aux alentours de 22h pour le main event. Baïsangour Shamsoudinov contre Cédric Doumbé. Vendredi soir, je sais pas, c'est heure américaine, donc ça va être genre aux alentours de minuit, je pense. Boxe anglaise, Anthony Joshua contre Francis Ngannou. Et dans la nuit de samedi à dimanche, l'UFC 299 avec le français Benoît Saint-Denis. Voilà un petit peu du coup pour cette émission. On va se quitter là-dessus, on a fait le tour. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à débattre avec nous, nous poser des questions, se faire un plaisir d'y répondre évidemment. N'oubliez pas, la première règle du Bagarre Club, c'est qu'on parle du Bagarre Club. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur Instagram et Twitter, @lebagarreclub. C'est la fin de cette émission, qui sera disponible en podcast prochainement, j'imagine. Et voilà, on vous souhaite une bonne soirée et à mardi prochain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.